Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
Alors, je m'appelle Alban et je suis étudiant, enfin techniquement étudiant, parce qu'en fait, je préférerais qu'on m'appelle un chercheur précaire. Je fais une thèse en astrophysique à l'Observatoire de Nice.
Pourquoi est-ce que vous êtes dans la rue aujourd'hui?
Vis-à-vis du climat, parce que cette question, malgré ce qu'on en dit, malgré les discours politiques, n'est pas prise au sérieux par les décideurs actuellement. On est au niveau des émissions de dioxyde de carbone en France à 7% au-dessus des accords de Paris, enfin des cibles des accords de Paris. On a augmenté de 3% l'année dernière et on voit que concrètement rien n'est fait dans la pratique vis-à-vis de l'urgence climatique.
Du coup, justement, par rapport à ça, est-ce qu'il est trop tard pour agir ou est-ce qu'on a encore le temps?
Il n'est jamais trop tard pour agir. Enfin, si vous foncez dans un mur en voiture, il n'est jamais trop tard pour appuyer sur les freins. Il est trop tard pour arriver à 0 degré de réchauffement climatique. Ça, tous les modèles sont catégoriques là-dessus. On n'arrivera pas à éviter un réchauffement. On vit déjà dans une période de changement climatique. Et il y a des délais qui font que le dioxyde de carbone qui a été relâché il y a 10, 15, 20, 30 ans dans l'atmosphère continue d'avoir des effets. Par exemple, actuellement, il y a les océans qui se réchauffent et qui absorbent une grande quantité de chaleur. Ce qui veut dire que la trajectoire actuellement au niveau du réchauffement climatique, va être une augmentation des températures, quoi qu'il arrive. La question, c'est de savoir si cette augmentation va être de 2, 3, 4 ou 5 degrés.
Greta Thunberg, la jeune Suédoise, est-elle un modèle pour vous?
Un modèle pour moi, alors je trouve qu'elle est assez courageuse et c'est franchement une bonne chose que ce qu'elle fait. Ensuite, je ne pense pas qu'on ait tant besoin de modèles et d'inspiration en tant que personne, mais à mon avis, il nous faut surtout une direction idéologique et une ligne politique claire pour quelles vont être les décisions vis-à-vis de la réponse au changement climatique. Actuellement, les mesures qu'on a vis-à-vis du changement climatique ne sont pas des mesures, ce sont des mesurettes, ce sont des petits trucs. On va saupoudrer par-ci un crédit à l'achat d'un véhicule moins polluant, par-là un plan vélo à un niveau de financement ridicule, on va mettre quelques éoliennes, mais finalement, quand on regarde structurellement, notre économie n'est pas en voie d'être décarbonée, et c'est le problème. Et finalement, tant qu'on n'aura pas une trajectoire politique qui peut nous dire eh bien, d'ici à 2050 on n'émettra plus de gaz à effet de serre, on n'aura pas quelque chose de sérieux vis-à-vis de la réponse à ces défis-là.
Si on ne peut pas faire confiance aux politiques, comment est-ce qu'on peut faire changer les choses à notre échelle?
Ah, ça c'est une grosse question. À mon avis, le changement passera avant tout par la politique, par une action collective. Prendre des actions individuel pour réduire le réchauffement climatique vis-à-vis de son empreinte personnelle, pour justement lutter contre le réchauffement climatique, ça fait à peu près autant de sens que de lutter contre le mal-logement en donnant une pièce à un SDF. Ça ne veut pas dire que moralement il n'y a pas d'intérêt à le faire, je pense qu'il faut le faire, ne serait-ce que pour avoir des modes de vie qui sont plus résilients vis-à-vis de la fin des ressources, parce que ça c'est aussi un problème vers lequel on va en tant que société. C'est qu'actuellement, on peut faire 50 km aller, 50 km retour en bagnole pour aller bosser. Ça ne sera sûrement pas possible dans 30 ans. Nos approvisionnements en pétrole, notamment, dépendent énormément de facteurs géopolitiques qu'on ne contrôle pas. Et donc, il y a tout intérêt, ne serait-ce qu'à adopter individuellement des modes de vie qui permettent de résister aux changements qu'on pourrait subir. Parce que si on n'est pas acteur là-dessus, on va subir ces changements. Et ça va être assez douloureux.
Est-ce qu'une simple marche comme aujourd'hui suffira à faire changer les choses ou est-ce qu'il faut passer à des moyens d'action plus radicaux?
Alors évidemment qu'une simple marche ne servira pas à faire changer les choses. Ensuite, vis-à-vis des moyens d'action radicaux, il y a des lois contre les appels à la violence, ce qui fait que je ne sais pas si publiquement je peux m'exprimer vis-à-vis de ça. Ensuite, il y a des actions qui ne sont pas forcément des actions de dégradation, mais qui ont eu des effets assez importants vis-à-vis de... ne serait-ce que d'un point de vue propagande médiatique. Par exemple, il y a eu les opérations de nettoyage de la Société Générale qui avaient bien marché, les voleurs de chaises, ça avait été une belle action. Et dans ce sens-là, les marches comptent, mais à mon avis, il ne faut pas non plus décourager des actions directes qui peuvent aussi avoir un impact avec finalement moins de monde. Éventuellement.
Est-ce que vous avez peur pour votre avenir? Est-ce que vous croyez une possible fin de l'humanité ou effondrement?
Ah, ça, la question de l'avenir. Peur, oui. Mais j'ai surtout peur de l'égoïsme des vieux. Quand vous voyez, par exemple, l'Assemblée nationale, ce sont des hommes gros et vieux qui ont en gros entre 50 et 60 ans et qui, dans 50 ans, ne seront plus là, de toute façon. Je ne suis pas si jeune que ça par rapport à la moyenne d'âge ici, j'ai 26 ans, mais dans 50 ans, je serai encore en vie. D'autant plus les lycéens qui sont ici, qui eux seront dans leur soixantaine et n'auront même pas la retraite dans 50 ans au rythme auquel on va. D'un point de vue personnel, évidemment que c'est inquiétant, mais c'est aussi inquiétant d'un point de vue plus large. Finalement, nous, dans notre société européenne, on est riche, on est assez bien protégé de ce genre de choses. Et les gens qui trinqueront et qui commencent déjà à trinquer, ce sont les populations qui sont déjà les plus défavorisées. Par exemple, la désertification en Afrique, qui est à l'origine de gros problèmes de migration, d'instabilité politique. Il y a actuellement des études qui lient la crise syrienne depuis 2011, la guerre civile, à des problèmes d'insécurité alimentaire liés au réchauffement climatique. Et finalement, ce sont ces gens-là qui vont galérer le plus. Une situation d'apartheid climatique récente aussi, c'était l'ouragan, je crois que c'était Irma, à Porto Rico, qui a fait des milliers de victimes, qui a plongé le pays dans le noir pendant des mois. Ça fait plus d'un an, le pays, ils n'ont toujours pas récupéré. Porto Rico est un État états-unien, mais finalement, rien n'a été fait parce que ce sont des États-Unis un peu basanés qui parlent espagnol et qu'il y a un racisme dirigé vers ces gens-là qui est prévalent aux États-Unis. Donc ça m'inquiète d'autant plus pour des gens qui sont actuellement dans des pays pauvres, qui sont victimes de racisme, qu'on empêche, qu'on bloque aux frontières en fait, pour lesquels on va construire des murs pour éviter de les récupérer ici, que pour l'Europe, parce que finalement l'Europe va être touchée durement, mais s'en sortira bien par rapport à d'autres endroits. Enfin, quand on parle de centaines de millions de réfugiés climatiques, combien de Bengalais par rapport au nombre de Néerlandais dans les réfugiés climatiques.
Super, merci beaucoup.